qui essaye de nous enfermer sous-estime la colère du dollar.
Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même à l'heure qu'il est, ils prennent les familles pour des serpillères.
Dedans c'est dur, dedans c'est dur. Dehors c'est dur aussi, dehors c'est dur. C'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador veulent gâcher nos vies.
Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer.
Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes.
Pour les gars de Gitterside, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs.
Armée de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, je suis aux arrivants, fin de...
Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, me fera rire. Une heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle.
Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Bonjour, il est 18h et vous êtes sur Casse-Muraille, sur Prune 92 FM. Et on écoute Casse-Muraille. Du coup, Casse-Muraille, c'est une émission de radio anticarcérale. On s'oppose à toutes les prisons, à tous les enfermements et plus généralement à la répression d'État et à tous les outils qui sont au service de l'État pour pouvoir appliquer sa domination sur la population. Aujourd'hui, je suis avec Tim et Clara. Bonjour.
Salut, salut.
Salut.
Et il y a également Chat qui est venu pour assister à l'émission. Bonjour, Chat.
Salut.
On a prévu de parler des QLCO. Hein, on en a déjà parlé à l'émission. Si vous nous écoutez de temps en temps, vous voyez c'est quoi ? C'est les quartiers de haute sécurité dits contre la criminalité organisée, mis en place à Vendin-le-Vieil et à Condé-sur-Sarthe. Quelqu'un
oui,
présente
bah,
un
en fait, Darmanin, donc, qui est ministre de la Justice et des Prisons, a fait un peu sa campagne là-dessus, sur la lutte contre le narcotrafic. Donc, ils ont vraiment réussi avec Retailleau à faire rentrer le mot narcotrafic dans le langage commun de la répression et de l'analyse de ce qui se fait d'illégal en France. Alors pour nous, narcotrafic, vraiment, on l'utilise avec des guillemets parce que ça correspond à pas grand-chose. Enfin, c'est pas une réalité spécifique. Donc c'est juste les personnes qui font du trafic de drogue en France. Et donc dans le cadre de cette campagne, Darmanin l'année dernière, il a fait passer une loi qu'il a appelé la loi pour sortir la France du piège du narcotrafic, je crois. Et dans ce truc, il y avait des nouvelles prisons qu'il avait annoncées en grande pompe, qui seraient des nouvelles prisons pour les 100, ce qu'il appelait les 100 plus gros narcotrafiquants, où il promettait donc d'ouvrir des prisons spéciales et de leur mettre la misère. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il a ouvert des QLCO dans des quartiers de lutte contre la criminalisation organisée dans les maisons centrales de Vendin et de Condé-sur-Sarthe, qui avaient ouvert elles-mêmes dans les années 2010 en étant déjà présentées comme des maisons centrales ultra sécurisées. Parce qu'il y avait une architecture plus moderne et plein de nouveaux moyens technologiques mis à disposition de l'administration pénitentiaire pour contrôler et surveiller les gens. Et donc là, il y a un quartier de lutte contre la criminalité qui a ouvert à Vendin cet été, où les gens ont été transférés, il me semble, fin août, début septembre.
Oui, même avant, hein. Juillet, je dirais. Ouais. À partir de fin juillet, ouais, ils ont commencé les transferts.
Et où il y aurait environ 90 prisonniers qui seraient enfermés dans ce quartier. Et à Condé-sur-Sarthe, il y a eu une ouverture en novembre, à cheval entre octobre et novembre, je dirais, dans ces eaux-là, et où il y a un peu moins d'une quarantaine de prisonniers. Donc, bien comme annoncé, il leur met la misère dans ces quartiers-là. Donc, il y a des conditions de détention qui sont légiférées dans la loi pour sortir la France du piège du narcotrafic. Donc, on avait déjà présenté, en fait, dans l'émission, on en a déjà parlé plein de fois, de ces conditions légales de détention avec une restriction sur les parloirs, les promenades, tout ça. Pas du VF. Enfin, on ne va pas vous refaire la liste complète. Et après, du coup, il y a aussi le fait que ça ouvre la porte à plein de choses pour les matons. Mais ça, ça va être un peu le but de l'émission, de dénoncer tout ça.
Carrément.
Oui, je voulais rappeler que du coup, il y avait des luttes qui se mettaient en place. Enfin, c'est des conditions qui sont vraiment très dures pour les prisonniers. Et dès l'ouverture du premier QLCO à Vendin-le-Vieil, il y avait eu un mouvement de protestation. Plusieurs prisonniers s'étaient mis en grève de la faim. Même plusieurs, je pense que c'était une partie assez importante. Et puis, ce n'était pas qu'une grève de la faim. Il y a eu d'autres types d'actions. Il y a les coursives qui ont été inondées. Et à cette occasion, il y avait eu donc ça date de septembre dernier. Mais il y avait eu un communiqué qui avait été écrit par les prisonniers en lutte, qui s'était appelé ironiquement le super cartel de Vendin-le-Vieil. Et je vous ai préparé une lecture de ce communiqué-là qui date de septembre dernier, mais qu'on va réécouter aujourd'hui.
Communiqué de presse, super cartel de Vendin-le-Vieil. Grève de la faim à partir du 1er septembre 2025. Nous, détenus, annonçons aujourd'hui une grève de la faim à compter du 1er septembre 2025. Notre mouvement n'est pas dirigé contre nos conditions de détention, mais contre les conditions inhumaines imposées à nos familles. Nos familles paient le prix fort. Elles parcourent des centaines de kilomètres pour venir nous voir, parfois au détriment de leur santé, de leur travail, de leur équilibre. Au parloir, elles se retrouvent derrière un hygiaphone, dispositif justifié officiellement pour éviter l'introduction d'objets illicites. Pourtant, chacun sait qu'un portique à ondes millimétriques détecte déjà tout objet interdit. Même les surveillants témoignent que ce système sert avant tout à casser psychologiquement détenus et familles. Une mise en scène indigne. Les familles, y compris des enfants, sont accueillies par des agents cagoulés, censés les impressionner. Pourtant, en détention même, les agents ne portent pas de cagoule. Les appareils téléphoniques sont limités à deux fois par semaine sur des créneaux restreints, 8h midi, 14h 16h. Or, à 16h, les proches travaillent et les enfants sont à l'école. Rappelons que nos proches n'ont commis aucune faute. Ils ont un casier vierge. Ils paient leurs impôts et n'ont évidemment aucun numéro d'écrou. La vérité contre les mensonges. Nous ne sommes pas violents avec les agents. Seuls quelques individus isolés et déséquilibrés le sont. La vérité, c'est que les agents sont en sous-effectif et non 250 comme l'affirme le ministre de la Justice, M. Gérald Darmanin. Darmanin ment. Le délégué syndical David Lacroix ment. Notre position. Votre rêve est de nous pousser à la violence. Nous ne tomberons pas dans ce piège. Notre résistance sera pacifique mais déterminée. Le 1er septembre 2025, nous entamerons une grève de la faim pour défendre la dignité de nos familles.
Casse-muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.
Voilà, donc c'était le communiqué du super cartel de Vendin-le-Vieil. Et du coup, y a eu des luttes qui se sont poursuivies suite à ce communiqué. Y a la grève de la faim, je ne sais plus combien de temps elle a duré. Il me semble qu'elle a duré plusieurs semaines.
Jusqu'à 15 jours, je crois qu'il y a des gens qui ont tenu. Petit à petit, il y a eu de moins en moins de monde qui la tenait, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a tenu au moins 15 jours.
Je pense que c'est vraiment difficile à tenir aussi quand on est à l'isolement parce qu'en fait, on n'est pas au contact avec des gens qui pourraient être en soutien. Et du coup, quand on est juste enfermé entre quatre murs et qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a des gens qui voient ce qui se passe, qui peuvent témoigner et tout ça, je pense que c'est dur de, de garder du sens dans, dans les choses qu'on fait sans savoir quelles répercussions ça pourrait avoir à l'extérieur, quoi.
Et puis globalement, en fait, c'est assez notoire le fait que les gens ils sortent un communiqué. Déjà, c'est pas tous les quatre matins quand même qu'il y a. Enfin, vu comment l'administration pénitentiaire et la société en général fait tout pour que les personnes qui auraient à se rebeller restent dans leur coin et se débrouillent avec leur problématique de vie, mais de façon hyper individuelle, c'est assez rare qu'il y ait des communiqués collectifs et des actions collectives qui soient menées. Et là-bas, enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est vraiment de notre responsabilité d'essayer de donner le plus de visibilité possible à ces actions, parce que c'est des risques de ouf qu'ils prennent pour sortir ces informations-là de ces quartiers qui sont justement pensés pour être hermétiques et que les gens aient zéro contact avec l'extérieur. Et que, c'est. Enfin, je sais pas, il faut soutenir ça, quoi. Le fait que les gens ils soient un peu mis acculés au pied du mur et qu'ils sortent quand même des trucs collectivement. Et que s'il n'y a pas de relais à l'extérieur, c'est des coups d'épée dans l'eau, quoi.
Oui, c'est chaud. Et comme tu disais, oui, le fait. Enfin, tu as dit qu'ils étaient à l'isolement. Enfin, c'est pas vraiment l'isolement, mais c'est. Enfin, légalement, ça ne s'appelle pas de l'isolement. Et le fait qu'ils tournent à 5 en promenade, c'est pas de l'isolement. Mais en même temps, c'est vrai qu'ils sont dans ce huis clos où c'est les. Ils sont dans ce groupe de 5 à se voir que eux uniquement. Et du coup, comment faire pour tenir? Comment faire pour se dire que pour se donner de la force, pour se soutenir aussi dans tenir un mouvement collectif, quoi.
Oui, c'est même difficile de savoir si au-delà, dans le reste de la prison, les gens continuent ou pas. En fait.
Oui, parce que pour quand même repréciser un peu l'état de la possibilité de faire des choses collectives. Donc, comme tu disais, ils sont un maximum 5 par aile. Ça veut dire que ça, c'est à Vendin et à Condé, c'est la même. Ils sont maximum 5 prisonniers par aile. Ça veut dire que à chaque mouvement dans la tôle, donc ce qu'on appelle un mouvement, c'est quand le prisonnier il sort pour aller à l'infirmerie, au parloir, à l'atelier ou je sais pas quoi, même si là ils ont pas d'atelier. Mais du coup, les mouvements se font de façon individuelle. Donc il y a jamais de moment où il y a des prisonniers qui marchent ensemble dans les couloirs, dans les couloirs du QLCO. Le parloir, il est à Hygiaphone, donc il y a zéro contact physique possible avec des visiteurs ou des visiteuses de l'extérieur.
À part, comme ils disent, ils mentionnent que les enfants peuvent être amenés du côté de l'autre côté, enfin, qui pourraient avoir des contacts avec leur môme, sauf que les matons sont cagoulés et que du coup, à un moment, les gamins, ils se retrouvent à passer du côté où il y a leur daronne, à devoir passer avec des cagoulés. Pour être amené du côté de leur daron et du coup c'est trop traumatisant pour des enfants ou que même des parents puissent s'imaginer de laisser faire ça. En fait, c'est une manière de faire qu'il y a ni contact ni enfin qu'il y a pas de contact possible même avec leurs enfants, quoi.
Et que les visiteurs ou visiteuses peuvent être fouillés, même palpés, quoi.
Ouais. même les gamins,
ce qui est aussi c'est le mot nouveauté qui me vient en tête, mais je trouve que ça ne montre pas assez que c'est trop rétrograde quand même, que c'est une perte de droit par rapport à des combats qui ont été menés. Et qu'il y a des portails à ondes millimétriques, donc comme dans les aéroports, où on voit en 3D tout ce qu'il y a sur toi. Donc, c'est absurde au bout d'un moment, quoi. Il y a une vitre de toute manière, donc il n'y aurait finalement même pas besoin de fouiller les...
Et d'ailleurs, c'est ça qui sort de ce communiqué, c'est de dire regardez comment ils mettent la misère à nos familles, quoi. Et que finalement, pour punir les prisonniers, c'est à leur famille qu'on s'en prend.
Ouais. Et que du coup, en promenade, ils tournent toujours avec les 4 mêmes gars. En gros, c'est les seuls autres visages, quoi, qu'ils voient dans la détention. Et il y a quand même des fouilles qui sont presque systématiques à chaque mouvement, des fouilles à nu. Mais bon, donc ça, c'est un peu ce qui est commun à Condé et à Vendin.
Ouais.
Et peut-être qu'on va écouter une petite musique avant de se concentrer un peu plus sur des infos qui sont sorties de Condé.
Ouais.
On peut écouter Loin d'ici de Zamdam.
Et Niska.
Oui, et Niska, pardon.
Thank you. Je cherche des réponses, je les trouve dans des questions. Sur une feuille de béton, je tâche et je dessine. Moi j'ai grandi comme un enfant béni, à côté de ceux qui commettent les délits. Les voix dans ma tête sont pas angéliques, ils manquent les ailes de la foi et l'auréole. Enfant des abysses, laisse-nous dans le noir et on rayonne. Ah, dans la haine c'est instinctif, c'est être héréditaire. Si j'étais une machine, j'serais sûrement solitaire. C'est pas que j'aime pas les forces de l'ordre, j'ai du mal avec toute forme d'autorité. Je dois maquiller mon âme en bleu, accorder les sonorités. Des fois je ferme les yeux, je m'imagine loin d'ici. J'essaie d'oublier les homicides. Faudrait que j'emplisse ma tête de pensées positives. Faudrait que j'emplisse ma tête. Oh, oh, oh.
C'est vrai qu'il y a trop de pièges, mais Merlin, je faut qu'on avance. Si c'est mon faciès, je sais que c'est ça qui les dérange. Tu connais la chanson. C'est plus comme avant. De Panama à Marseille, ruelle infestée de délinquance.
Déchaîner les enfers, libérer les frères. Libérer. On est contraint de cramer nos gueules. Mais demande pas si on en est fier. Je demande pardon à deux doigts de glisser. Je dois faire crari mais je peux pas m'empêcher. Je suis un vrai charo, la Russie en moi. Africain rebelle, j'ai de la Russie en moi. Va pas trop vite, c'est une course de fond. On voit jamais mais ils disent ce qu'ils font. Va pas trop fort, vend les chicas. Viens va derrière, je t'explique. On s'éteint, nos cœurs on saccage. Nos principes nous prennent en otage. Dans les ruelles insalubres, y'a les condés en slalom. Problème de riche, j'sais même plus où pisser. Car y'a beaucoup de WC dans le penthouse. Tellement de cali, la voiture en peste. Elle a un serpent tatoué sur les fesses. Sous le siège côté passage, y'a de quoi les refroidir. Mais pas besoin d'être gainé. Elle pensait que j'étais misogyne. J'l'ai daté au café des femmes, Pebanks.
Des fois je ferme les yeux, je m'imagine loin d'ici. J'essaie d'oublier les homicides. Faudrait que j'emplisse ma tête de pensées positives. Faudrait que j'emplisse ma tête. Oh, oh, oh.
C'est vrai qu'il y a trop de pièges, mais Merlin, je faut qu'on avance. Si c'est mon faciès, je sais que c'est ça qui les dérange. Tu connais la chanson, c'est plus comme avant. De Panama à Marseille, ruelle infestée de délinquance.
Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appelle et SMS au 07 82 98 43 59.
Donc on est toujours sur Prune à l'écoute de Casse-Muraille et on parle aujourd'hui des QLCO, les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Donc c'est les prisons de très haute sécurité mises en place récemment. Soi-disant pour les narcotrafiquants.
Et du coup.
Donc maintenant, on va écouter une lecture qui a été faite d'un communiqué qui est sorti de Condé sur Sarthe en ce début d'année 2026.
À Gérald Darmanin, je fais ce courrier de la part de tous les détenus du QLCO de Condé sur Sarthe. À partir de cet instant, c'est-à-dire le 5 janvier au soir, nous entamons des mouvements de protestation contre le QLCO qui instaure ses propres règles. À l'instar du QLCO de Vendin-le-Vieil, qui paraît beaucoup plus souple. 2 heures de promenade, lecteur DVD en cellule, pas de marquage au sol à suivre, une ligne par terre. Ici, à Condé, les requêtes ne sont pas prises en compte. Les détenus sont 23 heures sur 24 en cellule, et pour la plupart, pour ne pas dire tous, n'ont rien à faire dans un QLCO. Le QLCO n'a aucune vocation, si ce n'est une vengeance personnelle sur les détenus. Nous regrettons l'opacité des procédures pour affecter les détenus. Si l'ensemble des dossiers étaient traités avec discernement, aucune des personnes détenues à l'instant n'aurait suffisamment de motivation pour y être affectée. Les QLCO ont été créés juste pour assouvir les ambitions politiques du ministre de la Justice. À part cela, cela ne sert à rien. Les agents sont des cagoulés, alors que j'étais incarcéré dans cette prison il y a 40 mois en arrière. Je les connais tous. C'est une mascarade. Pour finir, l'ensemble des détenus de Condé-sur-Sarthe, QLCO, est déterminé à protester. On attend des changements, ainsi que de pouvoir s'entretenir avec le chef d'établissement pour améliorer nos conditions de détention. Signé, l'association de bienfaiteurs de Condé-sur-Sarthe.
Voilà, bah merci à l'association de bienfaiteurs d'avoir le courage en fait de faire sortir des trucs et de raconter ce qui se passe. C'est déjà bien hardcore ce qu'ils racontent. Enfin, mais c'est surtout des revendications en fait, plus un truc de dire nous on va pas accepter ça. Mais il y a aussi, enfin, on a entendu dans l'émission de radio anticarcérale de Paris de l'Envolée. Aussi d'autres informations qui sortaient de l'intérieur qui étaient bien hardcore. Peut-être qu'on va essayer de vous en faire la liste aussi pour qu'on prenne, enfin que ce soit possible de prendre la mesure de la férocité de ce qui est en train d'être mis en place par Darmanin dans ces prisons là.
Oui, et du coup le premier communiqué qu'on a lu, c'était par rapport à Vendin-le-Vieil, parce que c'est aussi le quartier qui a ouvert en premier. Et puis là, on est 6 mois plus tard. Et en fait, il y a un mouvement qui se fait à Condé-sur-Sarthe et qui dénonce aussi que sur certains aspects, il y a des choses qui sont encore pires à Condé. Et aussi, du coup, l'arbitraire, que c'est en fait un peu au bon vouloir de chaque administration pénitentiaire. C'est déjà des choses qui se passent dans les quartiers généraux. Mais je pense que c'est encore plus accentué avec le QLCO.
Sachant que dans le communiqué, il parlait de l'arbitraire des mesures de placement. Et je voulais juste préciser, j'avais oublié de le faire en début d'émission, que le placement en QLCO, il était de 1 an, renouvelable à l'infini. Voilà. Précision.
Mais c'est long, l'infini.
Grave. Et du coup, dans les trucs qu'on a entendus dans l'envolée donc, qui se passe au QLCO de Condé-sur-Sarthe, il y a notamment le fait que dans les cellules, donc c'est de l'encellulement individuel évidemment, il y a une ligne qui est dessinée à 2 mètres de la porte. Et avant chaque ouverture de porte, les surveillants gueulent vers l'intérieur de se mettre sur la ligne. Et en gros, si tu ne te mets pas sur la ligne, ils n'ouvrent pas la porte. Ou ils ouvrent la porte et ils rentrent et te défoncent. Je ne sais pas quelles sont leurs réactions. Mais du coup, il y a un truc de restriction du corps hyper fort de se mettre... sur cette ligne.
Et du coup, oui, tu dis que les infos viennent de l'émission de radio L'Envolée. Mmh. L'émission de radio L'Envolée, c'est une émission qui aussi une autre émission anticarcérale qui passe toutes les semaines et qui est relayée localement dans plein de villes différentes. À Nantes, c'est rediffusé tous les lundis à midi à Jet FM.
91.2.
Dans d'autres trucs, je continue peut-être sur vraiment des trucs de un peu de restrictions absurdes qui semblent être faites vraiment pour juste faire péter des câbles. Il y a les restrictions des cantines. Donc à Condé, c'est pas possible de cantiner un lecteur DVD, mais aussi ce qui est raconté par des courriers ou quoi, c'est que pour cantiner un gel douche, il faut attendre d'avoir rendu son ancien gel douche vide. Ce qui veut dire que tu vides ton gel douche, t'en cantines un autre, et du coup, tu dois attendre une semaine pour pouvoir avoir un nouveau gel douche. Parce qu'il n'y a pas le droit d'avoir deux bouteilles de gel douche en même temps. Voilà, bon, ça, c'est un peu des exemples, je pense, qui viennent démontrer l'absurde et les trucs qui sont faits pour insidieusement faire péter des câbles. Après, dans les témoignages du coup, qui sont relayés par L'Envolée de ce qui se passe dans le QLCO de Condé-sur-Sarthe, il y a des trucs vraiment de torture physique vraiment plus hardcore qu'on va vous raconter aussi.
Ouais. C'est aussi, il y a des avocats aussi qui ont sorti un article dans le Figaro qui détaille un peu des trucs... des trucs qui se passent là-bas, et notamment, je crois, sur ces trucs sécuritaires. Notamment le fait qu'il faut... En fait, à chaque mouvement de prisonnier, il y a 3 à 8 agents qui sont présents. Et dans le cadre de ces mouvements, du coup, les gens doivent... Enfin, quand ils marchent dans le couloir, à chaque fois qu'ils s'arrêtent, ils doivent mettre leur tête contre le mur. Et il y a une punition s'ils ne le font pas. Et du coup, à chaque fois qu'il y a punition, la technique d'intervention des matons, c'est de se jeter sur les gens, de mettre les doigts dans la bouche, les doigts dans les yeux, tirer sur les parties génitales, et de mettre les gens au sol en tordant les bras et les jambes et les genoux. Enfin voilà, de plier les gens, quoi. Comme...
Et les asphyxier avec leurs genoux.
Oui, même tu racontais avant l'émission là, qu'il y avait des consignes très détaillées et même des fois avec une certaine lenteur de avance, arrête-toi, et que pareil pour les fouilles, que en fait tout est décrit. Maintenant, enlève ton pull, donne-moi ton pull, enlève ton t-shirt, donne-moi ton t-shirt. Enfin, que c'est tout. C'est tout comme ça, où en fait ça laisse aucune marge de manœuvre pour je sais pas, pour avoir ses propres gestes, en fait. On devient juste une machine qui doit obéir à des instructions très simples et très détaillées, quoi.
Oui, c'est ça, dans une plainte qui est déposée donc par un avocat qui raconte ça dans le journal. L'avocat, il dépose plainte pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique sur son client. Enfin, c'est le client qui dépose plainte, d'ailleurs. Et l'avocat, il raconte que dans la plainte, donc, l'histoire, c'est que la personne là, qui est au QLCO, elle se fait réveiller, donc, comme tous les prisonniers du QLCO, par la lumière dans la gueule toutes les deux heures. Qu'au bout d'un moment, il finit par serrer, normal, on serrait tous. Et donc, il manifeste son mécontentement. Étant donné qu'aucune manifestation de quoi que ce soit n'est acceptée dans le QLCO, il se retrouve en commission de discipline. Et donc, avant d'aller au prétoire, les surveillants décident de lui faire une fouille à nu avant sa commission de discipline. Et donc, cette fouille à nu, elle est hyper ritualisée et hyper longue, comme tu étais en train de la décrire, Gaël. Et comme c'est le système dans ce quartier, si tu l'ouvres, encore une fois, tu te fais défoncer, c'est ce qui s'est passé. Et les surveillants en ont même profité du fait qu'il soit nu suite à cette fouille à nu pour le frapper dans ses parties intimes. Et donc, c'est ça le dépôt de plainte. Mais... Donc ça, c'est une histoire d'une personne. Mais en fait, vu tous les témoignages et comment toutes les choses ont l'air ritualisées et ce truc de mettre sa tête contre le mur à chaque déplacement alors que tu es tout seul avec 3 ou 8 matons cagoulés autour de toi, dès qu'il y a un arrêt et tout, enfin, ça vient montrer quand même qu'il y a une façon de systématiser une domination physique qui est hyper vénère. Et du coup, cette plainte, on imagine c'est un prisonnier qui la pose pour une histoire, mais que c'est tout un système, quoi.
Comme ça, de le décrire, d'en parler, d'essayer de s'imaginer, ça donne vraiment l'impression d'un système de torture généralisé et de soumission et de... Enfin, de faire en sorte que les gens puissent plus lever ou ni bouger une oreille, quoi.
Dans ce cas, d'ailleurs, les prisonniers n'ont pas le droit de parler aux matons, aux surveillants qui les accompagnent, quoi. Et par rapport au truc de se faire réveiller la nuit, il y a en plus tout un truc lié au jour et à la nuit où c'est pas, enfin, il n'y a pas de, comment dire. Il n'y a pas de truc qui se passe à heure fixe. Il n'y a pas de rythme. Et pendant la journée, il y a très, très peu de lumière en cellule puisque aux fenêtres, il y a la fenêtre, des barreaux, comme d'habitude, des caillebotis comme de plus en plus de tôles. Et en plus, une grille resserrée qui empêche tous les yo-yos, mais qui du coup qui fait qu'on ne voit pas dehors et il y a très peu de lumière qui passe. Et le pendant de ça, c'est que la nuit, au contraire, il y a une lumière qui est allumée en permanence.
Et toutes les deux heures, une lumière très forte. Enfin, la lumière est augmentée à fond et les gens doivent prouver qu'ils sont encore vivants et du coup bouger avec les matons qui sont derrière l'œilleton. Du coup, ce qui fait que les gens ont quand même des nuits entrecoupées toutes les deux heures.
Et pour finir ce tableau de l'horreur qu'est le QLCO, il a aussi été rapporté qu'au mitard, il y a des surveillants qui, le matin, vont réveiller les prisonniers de Smithar en gueulant « C'est nous les nazis, ici c'est le Troisième Reich ». On l'avait compris de toute manière, mais le fait qu'ils l'assument, c'est encore plus flippant,
ça,
je trouve.
Ça montre bien l'ambiance. Hein.
Voilà, bon, bah, on se rend compte, on est désolé que c'est quand même bien badant tout ce qu'on raconte, comme d'habitude, puisque de toute manière, la prison, c'est badant. Mais si on vous le raconte, c'est pas juste pour faire déprimer tout le monde, c'est surtout pour se... Enfin, parce que nous, ça nous inquiète de ouf, qu'on a l'impression que c'est aussi un truc qui va se généraliser, puisque Darmanin, il a déjà annoncé l'ouverture de 4 autres QLCO à Réau, Valence, Luynes et Saint-Laurent-du-Maroni. Qu'il a annoncé des nouveaux plans où il veut mettre des millions et des millions pour sécuriser les prisons, c'est-à-dire rajouter encore plus de systèmes, de technologies qui sont restrictives pour que les prisonniers puissent trouver des brèches dans toutes les limitations qui leur sont faites. Et aussi, ça donne l'impression que du coup, ces conditions de vie qu'ils imposent aux prisonniers dans les QLCO, c'est aussi une... si on accepte ça à ces endroits-là pour les QLCO, petit à petit, la crainte, c'est que ça vienne les banaliser et que ça se généralise. Voilà, donc on trouve ça très inquiétant et... j'ai l'impression que ça serait intéressant qu'on soit nombreux à se mettre en lutte contre les prisons, évidemment, mais en particulier contre ces nouveaux quartiers hyper répressifs.
Mais comme tu dis, contre les prisons en général, puisque, moi, c'est ça que ça me rappelle, c'est que plutôt là, la prison, nous, on milite contre les prisons et pour l'abolition des prisons et vivre dans un monde sans prison. Et là, ce qu'on constate en face de nous, c'est que la prison se renforce, que ça devient de plus en plus coercitif, que ça devient de plus en plus trash. On sait que là aussi, cette création des QLCO, c'est une manière de revenir sur tous les acquis que les prisonniers avaient obtenus grâce à des luttes pendant les années 70, puis dans les années 90, et puis jusqu'à récemment. Par exemple, les UVF, c'était quand même des grosses revendications qui avaient abouti dans les années 2000-2010. Et finalement, là, hop, création de ces nouveaux quartiers, suppression des UVF, plus possibilité d'avoir des parloirs longs avec les familles, tout en déportant les gens super loin de chez eux. Enfin, puisque là, les QLCO, ils sont que dans le nord de la France et qu'il y a notamment des gens du sud de la France qui sont fermés là-bas. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils traversent la France pour une heure de parloir et qu'ils ne peuvent pas obtenir plus. Enfin, c'est... Voilà. Et en mettant la misère aux familles et tout. Donc, c'est vraiment... une volonté d'isoler les gens et tout. Mais du coup, je suis en train de repartir dans l'émission, là.
je vais faire pareil. et puis, j'ai l'impression qu'en utilisant ce terme de narcotrafiquant, c'est aussi venir créer une figure de nouveau monstre, comme c'était le cas pour les terroristes, où on peut mettre plein de mesures exceptionnelles sur eux, parce que c'est des méchants et du coup, tout le monde s'en fout de ce qui leur arrive. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui marche aussi. Et d'ailleurs, c'est pas que un quartier d'emprisonnement pour peine punitive. Il y a des gens qui sont en préventive. Et moi, j'ai l'impression qu'avant, ça choquait qu'on puisse être en préventive sans avoir été jugé et donc déclaré coupable des faits pour lesquels on était censé être puni. Et là, non seulement ça choque pas quand c'est des gens qui sont étiquetés narcos que les gens y soient en prison, alors qu'ils ne sont pas jugés, mais en plus, ça ne choque pas qu'ils soient dans des quartiers de torture, alors qu'ils ne sont pas jugés. Enfin, j'ai peur que ce soit un peu innocentiste comme discours, mais j'ai l'impression que ça montre aussi où les endroits ils se décalent de ce qui choque les gens et que du coup, ce que les pouvoirs arrivent à faire passer ou pas. Et je trouve ça alertant.
C'est vrai. Et du coup, on a besoin, en fait, c'est ça, c'est que pour lutter contre les prisons et pour montrer l'ignominie de ce système, tout ce qui se passe à l'intérieur et tout, on a besoin d'être contacté. Il se trouve qu'on a des contacts. On peut être appelé au 07 82 98 43 59. Ça, toute la semaine, vous pouvez nous joindre, on rappelle et tout. Et ça peut être l'occasion de prendre rencard s'il y a envie de témoigner dans une émission ou quoi. On peut aussi recevoir des dédicaces s'il y a envie de passer un message ou de dédicacer un morceau de musique à quelqu'un qui est enfermé. Voilà. Et sinon, pour les gens enfermés qui nous écouteraient, qui auraient envie de réagir, qui auraient envie de témoigner de la prison, qui auraient envie de raconter, enfin en fait de venir appuyer ce que nous on dit. Parce qu'en fait, si nous on le dit, c'est une chose. Mais si c'est des gens qui sont enfermés, qui témoignent de ça, ça a un autre poids en fait. Enfin, et nous, on est là pour mettre ça en valeur. Mais voilà. Et du coup, c'est possible de nous écrire à Casse-Muraille, chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000, Nantes.
Merci beaucoup. On arrive au bout de l'émission. Donc ça, cette émission, on l'avait enregistrée à l'avance, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une émission en direct.
Bon courage, bonne fin de semaine.
Ouais, de la force.
Au revoir.
Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.